Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Augustin Landier. Bonjour. Professeur à HEC, vous avez coécrit le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. On va parler justement du verdissement du logement. Xavier Rago, bonjour.
Bonjour.
Président de l'OFCE, vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Vous me direz avec qui vous allez fusionner au terme des travaux menés par Matignon, ordonnés par Matignon. Bonjour Jean-Marc Vittori.
Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Bon, la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai laissé 45 secondes pour réagir à l'intelligence artificielle. Je vous redonne la parole avec plus de temps. La question est, faut-il suivre les recommandations de cette pétition ? Une pause de 6 mois, ne pas aller au-delà de ChatGPT-4 tant qu'on n'a pas la certitude que les effets de l'IA sont positifs et, d'une certaine manière, que ça vienne des entreprises du secteur ou alors des gouvernements, installer une forme de régulation.
Bon. Alors c'est la suite de l'histoire que je vous racontais la dernière fois.
Bon, ben rappelez-la. Hein.
La dernière fois, je vous racontais que ChatGPT, c'était un marteau. C'est-à-dire un outil extrêmement puissant et avec lequel il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez un marteau, vous tapez sur un clou pour l'enfoncer, c'est plus efficace que n'importe quoi d'autre. Vous en servez sur un crâne, ça a des effets qui sont désastreux. Et donc il va falloir apprendre à s'en servir. Et c'est exactement ce que nous raconte la lettre ouverte qui a été publiée au début de la semaine. Alors on peut même se poser des questions. Hein. Quand on a des parties prenantes dans un projet qui disent il faut freiner, on peut se demander si des fois par hasard ça serait pas parce que ceux d'en face vont trop vite.
Oui. Voilà,
donc il faut se poser un certain nombre de questions tout de même sur ce qu'il y a derrière cette lettre. Ceci dit, le message est même intéressant, hein. On voit des gens de la Silicon Valley qui disent est-ce que il faut vraiment laisser tous les emplois disparaître, hein. C'est dit dans leur texte.
Bien sûr.
Et puis ils disent il faut s'arrêter, et si les gens du secteur ne s'arrêtent pas, il faut que ça soit les gouvernements qui s'arrêtent. Alors qu'on connaît un petit peu la Californie, l'esprit libertarien qui y règne souvent, etc. Voir des gens qui sont d'habitude raides contre tout ce que peut faire l'État, dire si on le fait pas, il faut que l'État intervienne pour le décréter. C'est intéressant. Je pense que derrière, ChatGPT et tout ce qu'il y a derrière,
oui, tout ce qu'il y a derrière,
l'intelligence artificielle générative, ça marque une rupture fondamentale. Que ça va extraordinairement vite. Je croyais, il y a des choses qui sont passées, des petites choses. Il y a des ingénieurs de Microsoft qui ont commencé à parler de conscience.
Et c'est
le premier qui a parlé de ça, il s'est fait éjecter. On lui a dit, c'est très intéressant ce que vous dites, cher monsieur, mais allez raconter ça ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui commencent à le dire. Voilà, donc il se passe des choses. On n'était pas là quand la conscience humaine est apparue. Il se passe peut-être des phénomènes de conscience qui apparaissent d'une nature différente. Et donc, je pense que derrière cette déclaration, je pense qu'il y a une vraie interrogation qui tourne à l'inquiétude, y compris chez des gens qui sont immergés là-dedans, sur ce qui se passe et sur ce qui pourrait se passer demain.
Il a fait une démonstration assez extraordinaire, Anthony Morel, sur BFM TV ce matin. Ils ont traité ce sujet en débat et il a eu recours à une intelligence artificielle gratuite sur Internet. Et cette intelligence artificielle lui a permis de reproduire à la perfection la voix de Donald Trump. Aujourd'hui, c'est accessible sur les voix en anglais, hein, pas encore vraiment en français. Et Donald Trump disait un texte: j'adore BFM TV et Christophe Delay, le présentateur, est le meilleur présentateur du monde. Bah, évidemment, Donald Trump n'a jamais dit ça, mais on entendait Donald Trump le dire. Et c'est une IA qui l'a fait.
L'une des interrogations qui apparaît d'ailleurs dans la lettre, c'est justement le rapport à la vérité.
Mais oui.
C'est que ces intelligences artificielles peuvent fabriquer des choses qui ont l'air vraies.
Ouais.
Et qui sont totalement fake, totalement faux.
Totalement faux.
Ça devient quasiment impossible de faire la différence entre l'un et l'autre. Or, notre société tout entière est fondée sur l'hypothèse qu'il y a des choses vraies et d'autres qui sont fausses.
Je corrige ce que je vous ai dit en introduction, puisqu'on connaît le nom du successeur de Philippe Martinez. Il s'agit de Sophie Binet, qui a été élue. Alors, l'information est tellement fraîche que j'en avais même pas pris connaissance. J'ai rencontré déjà Sophie Binet dans des débats par le passé. Elle était jusqu'ici à la tête de la CGT cadre et donc elle est sur une ligne assez CGT historique quand même. Avec la douceur féminine, mais sur une ligne assez CGT historique. Bon, l'IA, Augustin Landier, je vous connais, vous n'allez pas me dire qu'il faut faire pause.
Surtout qu'on n'est pas en position, nous, en Europe, de décider
sur
pause. Donc ça, c'est le paradoxe habituel des Européens qui dissertent sur est-ce qu'il faut appuyer sur pause alors que ça ne se passe pas ici. Mais comme Jean-Marc, je pense qu'il y a vraiment une accélération et que c'est au fond le sujet qui, probablement historiquement, quand on reparlera des années 2022-2023, ce n'est pas la réforme des retraites dont on parlera, c'est sûr.
C'est
et donc il y a une accélération qui remet en cause à la fois, oui, des questions un peu philosophiques sur qu'est-ce que c'est que le langage, qu'est-ce que c'est que la conscience. Donc ça, c'est vraiment passionnant de voir des vieux sujets de science-fiction qui se matérialisent. Et puis, le fait que ça a surpris à la hausse, quoi, l'accélération, la vitesse à laquelle se produit, surprend les spécialistes. Donc ça, c'est ça qui est un peu nouveau. C'est que jusqu'à présent, les spécialistes étaient plutôt en train de dire « Mais non, on est très très loin de l'intelligence générale. »
Générative.
C'est vraiment très imitatif. C'est simplement des choses qui imitent. Ça reste un peu ça, quand même, pour l'instant, les cas d'usage. Mais malgré tout, on voit bien que ça va au-delà de ce qu'on pensait plausible il y a 3-4 ans. Donc je pense que pour moi, la réglementation, elle doit porter sur les usages pour l'instant, plus que sur la recherche. En tout cas, je pense pas que l'Europe...
Je vois pas comment on va réglementer les usages. C'est ça. J'entends bien l'idée que l'IA ne doit pas être utilisée dans le domaine de la formation. Alors, les écoles peuvent l'interdire pour leurs élèves ou décider qu'il n'y a plus de travaux à la maison si systématiquement 100% des travaux sont réalisés par une...
Non, mais c'est simplement créer un cadre qui oblige, et c'est déjà plus ou moins le cas en Europe, mais ça oblige les opérateurs qui utilisent ces outils pour fournir des services ou des produits à être responsables sur la sécurité, le niveau de transparence, leur capacité à expliquer, le fait qu'il n'y a pas de discrimination, donc les questions d'équité, et puis les possibilités de recours, quoi. Que quelqu'un qui s'estime victime parce que, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, son nom, par exemple... fait que l'IA le traite mal, qu'il ait des possibilités de recours et d'exiger des corrections de ces systèmes. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est les cas d'usage qui doivent être réglementés. En revanche, disserter sur est-ce qu'on peut stopper la R&D en Californie, là, je crois que c'est pas la peine de passer trop de temps
en Chine.
L'étude de Goldman Sachs était assez passionnante parce qu'il reconnaissait que ça menaçait énormément d'emplois. Un quart des emplois des pays riches, en gros. Mais qu'il y avait des gains de productivité phénoménaux à attendre de cette intelligence artificielle.
Ça, je crois beaucoup moins, soit dit en passant.
Moi, je pense quand même qu'on est probablement devant une innovation de rupture. Le terme rupture qu'on utilise, qu'on n'a pas utilisé depuis l'iPhone en 2007, probablement. Je me tourne vers vous, Xavier Rago, à ce sujet.
Je pense qu'il faut séparer vraiment les sujets. Il y a le sujet emploi. Et il y a le sujet protection du citoyen face à des instances qui utilisent l'IA pour les discriminer, différencier de manière non maîtrisée, et l'accès à la vérité. Il faut vraiment séparer ces trois, parce que sinon on mélange tout, c'est pas clair. Quand on a inventé la machine qui a massivement déplacé le travail manuel vers les services, il y a des gens qui disaient on met sur pause. Heureusement qu'on n'a pas mis sur pause. Là, je pense sur l'utilisation par rapport à les gains de productivité dans les services, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça va déplacer l'emploi, mais c'est l'histoire de nos sociétés modernes, ces déplacements d'emploi. Donc, gérons les évolutions du marché du travail. Et il y a un petit côté, quand c'était en fait le travail manuel, on n'en parlait pas, mais quand c'est les professions,
c'est pas faux,
qui ont accès à la parole publique, qui sont un petit peu déplacées, là, c'est un drame international. Non. Eh ben non, je pense sera une bonne chose. Il y aura de l'intelligence qui va pouvoir être déplacée vers d'autres fonctions, comme le relationnel dont on a tant besoin dans nos économies.
Col blanc, col bleu, oui, j'ai aussi pensé à ça, effectivement. Là, l'histoire, c'est que quand vous avez les ludites et les métiers à tisser, c'est une profession qui se sent agressée par la technologie. Quand d'un coup d'un seul, dans le monde entier, avec une rapidité absolument incroyable, vous pouvez faire une lame de fond, là, le choc est peut-être plus violent qu'une nouvelle machine géniale qui permet de remplacer un bras, vous voyez.
Il y a clairement une question de vitesse dans cette histoire.
ChatGPT,
100 millions d'utilisateurs en 2 mois, jamais aucun dispositif dans le monde n'a 100 millions d'utilisateurs.
J'ai une autre lecture. Je pense qu'il y a une série des innovations dans notre capitalisme qui est fait et dirigé pour générer et occuper le loisir.
ChatGPT, c'est pas le loisir.
Attendez, pour l'instant, les 100 millions, je pense, c'est le loisir. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, j'adore. Quand j'ai un truc, je sais plus, je demande à ChatGPT, j'ai la solution. Donc, pour l'instant, comme Internet, on a dit Internet avait tout changé, Internet n'a rien fait sur la productivité. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on parle des nouvelles technologies, ça n'a rien fait sur la productivité. Est-ce que ça fait du loisir? ChatGPT, ça va faire du loisir, et petit à petit, ça a transformé, et là, je pense, c'est nouveau, ça a transformé les relations de services, et je pense, ça va faire des gains de productivité dans les services. Ça sera une bonne nouvelle. Donc, moi, il faut réglementer, il faut former, il faut accompagner, mais oui, ça va être un choc massif sur nos marchés du travail, comme on en a connu dans les gains de productivité, dans l'histoire du capitalisme. À chaque fois, c'est des bonnes nouvelles. Il faut gérer les coûts sociaux. Là, pour une fois, ça va peut-être faire baisser les salaires dans les décides un peu plus élevés de la distribution, parce qu'ils vont changer. Bon, on va accompagner ça.
J'ai pas pensé à cet aspect.
Ah bah, moi, je pense ça va être assez intéressant. Vous savez, dans la polarisation, on a plus de demandes de travail manuel, plus de travail créatif, et c'est le travail intellectuel un peu routinier qui est en train de se faire laminer par le projet technique, et ça va continuer. Ensuite, sur la protection des individus, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur, effectivement, la dimension juridique, le recours qu'on a interface avec une IA, par exemple, avec une administration que vous traitez avec une IA, c'est dans les grands nombres. Si vous êtes maltraité, il faut des possibilités de recours. Donc, il y a tout un appareil juridique à construire, l'homme face à la machine, pour les administrations, pour les entreprises, pour les services. Donc, ça, il y a tout un nouveau chantier à construire pour préserver l'humain.
Désert juridique, là.
Pour préserver l'humain, qui est notre ressource principale, face à la machine. L'humain doit toujours avoir raison face à la machine. Ça me rappelle les trois lois fondamentales d'Asimov, il me semble.
Vous imaginez, Augustin Landier, je demande à ChatGPT de m'écrire le prix de nos valeurs sur 200 pages pour ensuite aller le publier chez Flammarion, et il est capable de le faire.
Alors, j'en ai aucune idée. Mais... Je pense qu'en réalité, ça augmente la productivité des créatifs. C'est des aides. Hein. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ça ne vous donne pas un produit fini.
Non, dans la plupart des cas.
Les gens qui écrivent et savent que c'est un outil qui permet
délaguer. La quatrième version, elle a quand même bluffé tout le monde.
Hein. Ouais,
quatrième version, elle a bluffé.
Mais,
par rapport à la
première. C'est un outil qui est très complémentaire, qui s'insère assez naturellement dans le travail créatif, justement, mais qui permet de l'accélérer et au contraire, de produire plus. Donc en revanche, ça pose quand même des problèmes. Sur quelles sont les sources, ça reste quand même très imparfait. Hein. Donc, faut quand même aussi reformuler les critiques. C'est pas, il y a plein de cas d'usage où c'est pas très impressionnant sa capacité à dire des bêtises, son manque de capacité à dire d'où viennent les affirmations qui sont faites. Pour le reste, voilà, la capacité à écrire dans un style de bonne qualité est remarquable.
Il y a un exemple que j'aime bien, c'est un économiste qui a demandé sur son champ de recherche, il a demandé à ChatGPT une synthèse. Et ChatGPT a fait une synthèse très intelligente en citant un papier que l'économiste concerné aurait écrit. Sauf que l'économiste concerné, il n'avait pas écrit ce papier sur ce sujet.
Ah oui, il invente un papier.
Voilà, et donc il a inventé, le ChatGPT avait inventé un papier. Et le gars, donc, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a été évidemment surpris. Et il s'est dit, mais ce papier, c'est une excellente idée. Et il a décidé de se lancer sur cette recherche. Voilà.
Mais juste pour montrer. Ce qui est paradoxal, c'est que on pense que cette machine routinière va reproduire des choses, mais en fait, elle est super créative parce qu'elle fait des associations auxquelles nous, êtres humains, nous n'avons pas pensé dans plein de domaines.
Et
donc c'est un support à la création.
L'intelligence, l'une des définitions d'intelligence, c'est la capacité à relier des choses ensemble.
Et elle résonne avec l'esprit créatif, juste pour nos auditeurs, si vous voulez l'utiliser, par exemple, c'est un très bon outil pour trouver les meilleurs contre-arguments à une idée que vous pouvez avoir. Vous voulez créer une boîte, vous avez une idée de papier, si vous êtes chercheur, vous pouvez demander quels sont les meilleurs arguments contre cette idée. C'est une manière de brainstormer avec vous-même, si vous voulez. Ça, c'est vraiment nouveau.
Mais je pense ça avant. Avant, on faisait ça dans des séminaires académiques, 2 ans après avoir fait le papier, donc ça prenait des
années. Je pense qu'il faudra des cours en collège et en lycée, utiliser les réseaux sociaux, mais utiliser aussi les intelligences artificielles dans votre trajectoire scolaire. Pour faire les devoirs, etc. Je pense qu'il faudra des cours d'utilisation un peu normés.
Mais...
Parce que maintenant, tous les lycéens, ils vont demander à ChatGPT des choses.
Il y a déjà des établissements scolaires qui ont proscrit, par exemple, les devoirs à la maison. Si c'est...
Ça, c'est
mais avant ChatGPT, il y avait plein de devoirs qui étaient pompés sur Internet.
Ça, c'est parfaitement stupide.
Ça, c'est vain.
De quoi
D'interdire. Parce que demain, les jeunes de demain, ils serviront de ChatGPT. Donc, si vous voulez, ou ce qui viendra après, si vous interdisez aux jeunes d'apprendre à servir des instruments qui serviront demain, ils vont avoir un problème.
Mais là, l'idée, c'est d'essayer de les corseter un peu intellectuellement, vous voyez.
Si le gars
est super bon pour pianoter, oui.
Ensuite, il y a deux problèmes. Non, parce qu'il faut apprendre à servir de l'outil. Je reviens à cette dimension-là. Et ça, cet apprentissage est absolument fondamental. Mais ça veut dire aussi pour les enseignants une révolution complète. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils changent complètement et leur façon d'enseigner et plus encore leur façon d'évaluer. Et il faut qu'ils le fassent très très vite. On revient sur la question de la vitesse.
Tous les devoirs à la maison
sur
les intelligences artificielles, tous les devoirs sur table, et il y en aura peut-être de plus en plus, seront sans aucun support numérique et on saura évaluer les étudiants. Voilà. On saura faire.
C'est passionnant en tout cas.
Mais je vous assure, ce qui va se passer, c'est incroyable.
Mais je pense que.
Moi, je suis bluffé par l'intelligence humaine qu'a produit.
Je pense que quand on repensera à l'année 2022, on ne repensera pas à la réforme des retraites, mais on repensera à la révolution de l'intelligence artificielle. Si vous êtes propriétaire d'une maison ou propriétaire d'un immeuble, vous n'êtes pas concerné si vous êtes copropriétaire. Si vous vendez, vous devez faire un diagnostic de performance énergétique qui va vous donner une note de A à G. F et G sont les deux notes les plus pourries. Depuis, à compter de demain, pour vendre, si votre diagnostic vous met F ou G, vous avez l'obligation d'ajouter quelque chose. Ça s'appelle l'AER, l'audit énergétique réglementaire. Et l'AER va beaucoup plus loin, ça coûte entre 500 et 1000 euros en fonction de la superficie. Parce que l'AER, ça va être un mode d'emploi des travaux à réaliser, quels travaux faut-il faire, combien vont-ils coûter, et vous devez remettre ça dès la première visite au potentiel acheteur. L'acheteur, lui, verra donc la douloureuse qu'il attend une fois qu'il aura acheté le bien, donc il va négocier comme un diable avec le vendeur, c'est sûr. Mais cet acheteur, après, s'il veut louer le bien, il a l'obligation de réaliser les travaux de rénovation qui sont inscrits dans l'AER. C'est très bien, il faut lutter contre les passoires thermiques, il n'y a aucun problème là-dessus, mais tout va très vite. Tout va très vite, peut-être trop vite en matière de contraintes vertes sur le logement. Puisque désormais, les bâtiments G+, il y en a 190 000 qui sont sortis du marché de la location. Car s'ils ne sont pas rénovés, ils sont plus louables. Ensuite, on va continuer avec les autres notes progressivement. Et quand on aura mis les D et les E, 2035, on aura 7 millions de logements qui seront potentiellement, s'ils ne sont pas rénovés, sortis du parc. Moi, je dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va trop vite. Et on est en train, finalement, de siphonner l'offre de logement, alors que le problème du logement, c'est un problème d'offre. Vous êtes d'accord, Xavier Rago? On est d'accord pour la fin du monde, mais la fin du mois, il faut quand même en
tenir. Je suis d'accord. 2035, c'est quand même dans 12 ans.
Oui, c'est dans 12 ans.
La question, c'est que il faut réfléchir pour aller le plus vite possible. Et qui est une acceptabilité sociale.
Ben voilà.
Ce dont je ne suis pas sûr, c'est vraiment les études d'impact, la capacité à fournir les compétences et qualifications pour rénover tant de logements. Donc, c'est ambitieux. Ben après, il faut vraiment délivrer en termes de qualification, de maillage du territoire, de disponibilité des entreprises, de solvabilisation des bailleurs, parfois les bailleurs sociaux. Donc, et ça, c'est intéressant, cette question environnementale. On part par la contrainte dure. Et après, on fait confiance quelque part à l'intelligence du marché, ça c'est pour Augustin Landier, et de l'administration, ça c'est pour d'autres personnes, pour mettre en phase toutes les...
Non mais là, vous me parlez de la faisabilité. Oui, y a-t-il tous les professionnels agréés aujourd'hui?
Je pense que c'est la question.
Mais moi, je me dis qu'on siphonne l'offre. On ne peut pas siphonner l'offre et finalement retirer un toit à ceux qui ne peuvent pas payer. On leur dit déjà, tu ne pourras pas te payer la voiture propre. La ZFE centre-ville, c'est plus pour toi bientôt. Et puis, on verra si tu peux avoir un toit.
Sa grande tension sur la question de la transition écologique, la gestion des effets de répartition d'inégalités, c'est très très difficile. Il faut aider les plus pauvres, donc il faut mettre des budgets en face.
Oui, mais justement, ce qui est fait là, justement, aucun discernement des cas particuliers.
J'entends, et ça renvoie à... On a parlé de planification écologique, c'est qu'un mot pour l'instant. Tout ça sur les effets redistributifs, sur les territoires, sur les bassins d'emploi, c'est pas vraiment étudié encore, je pense.
C'est dramatique.
Je pense que c'est le début. Il faut hurler en disant on n'a pas les outils pour penser l'aménagement du territoire dans ces contraintes-là et créer les outils. Donc ça, c'est certain.
Ça me rappelle l'extraordinaire mission parlementaire qui a été menée sur la décennie ou les 15 ans sur les choix de politique énergétique. La conclusion, c'est qu'on a fait que des choix politiques sans études et sans réfléchir. Je me demande si on ne fait pas des choix politiques comme pour la voiture électrique 2035 pour des raisons politiques sans réfléchir.
Sauf que, de parler des raisons politiques, là, c'est une certaine noblesse du politique d'essayer de nous faire accélérer la transition énergétique.
Bien sûr que c'est pour des bonnes raisons. La fin du monde, la planète, les passoires thermiques. Moi, j'ai rencontré en plus des professionnels, là, vraiment, ceux qui ont les mains sur les travaux, qui vous expliquent que dans bien des cas, vous êtes devant des logements où techniquement on ne peut pas améliorer les performances énergétiques. Pour plein de raisons, parce que le logement est trop ancien, parce qu'il est intégralement classé, que vous ne pouvez pas faire un immeuble haussmannien sous les combles, bien souvent c'est impossible d'améliorer vraiment les conditions énergétiques dans la mesure où tout est classé et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Jean-Marc Vitorier, oui.
Trois idées très vite. Premièrement, ça va trop vite parce qu'on est parti trop tard. On aurait fait un certain nombre de mesures, mais ça rejoint ce que disait Xavier sur la nécessité d'une planification écologique. Si on avait mis des dispositifs au fur et à mesure, on aurait pu avoir quelque chose qui se fasse plus en douceur. En même temps, c'est pas facile. Et là, en fait, c'est un dispositif qui est extrêmement soft. On pourrait dire interdiction, nécessité de faire les travaux avant de vendre. Enfin, on a un dispositif qui est soft.
Sur la location, c'est super dur déjà. Vous êtes FG.
Non, mais on pourrait avoir
vous pouvez plus louer.
C'est pas très difficile d'imaginer des dispositifs qui sont
plus durs. Ah oui, on pourrait être.
Et si on l'avait fait au fur et à mesure, ça, voilà. Donc on va trop vite parce qu'on part trop tard. C'est exactement la même chose sur les ZFE. Le deuxième point, c'est qu'il faut les qualifications. C'est absolument essentiel. Quand vous discutez avec un couvreur aujourd'hui, il est prêt à faire des choses, mais il trouve pas les apprentis qui ont les qualifications nécessaires. Donc il faut qu'il les forme. Le gars qui est seul, s'il faut qu'il forme deux apprentis à ces technologies-là, ça va lui prendre la moitié de son temps. Techniquement, il peut pas. Et troisième point, il faut qu'on ait les techniques. Et pour le bâtiment, vous allez me dire, on a les techniques, mais comme toujours dans toutes ces histoires de transition, on n'a pas l'échelle. Donc on sait faire, mais on sait pas faire à très grande échelle. Les ZFE, c'est exactement pareil. Si vous regardez les ZFE aujourd'hui, on a toutes les solutions, seulement on ne sait pas faire 500 000 camions électriques en 18 mois. On ne peut pas faire ça.
Exactement. Et les ZFE, là, on voit des villes qui commencent à reculer en disant...
Bien sûr.
Puis, Xavier a commencé par une notion essentielle. Quelque chose ne peut exister que s'il est socialement accepté. Et là...